cours de philosophie première à Saint-Jodard le 28 mars 96 par le père Marie-Dominique Philippe.
Après avoir précisé rapidement, parce qu'il faudrait continuer un peu la manière dont le je suis jette une lumière sur la place exacte de l'acquisition de la prudence et à partir de la prudence l'acquisition de la justice, de la force, de la tempérance. Faut bien saisir que c'est toujours l'expérience du je suis au niveau métaphysique, au niveau du pos de l'être, du comment de l'être, qui me permet de préciser ce qu'est la personne dans sa complexité et dans son unité. Et pour cela, je fais toujours appel à la découverte de l'être en acte. Vous voyez, la découverte de la substance, elle est unique. C'est ça qu'il faut bien saisir. La substance me fait tout de suite saisir le noyau fondamental, spécifique de mon être. D'où ce point de vue de mon autonomie. Je suis, ma substance, c'est mon âme. Et c'est mon âme qui me donne cette détermination substantielle, fondamentale et unique. Je suis un être humain. Et je suis un être humain avec cette âme spirituel qui me donne cette autonomie, tandis que la découverte de l'être en acte reprend de fait toutes les parties de la philosophie. La philosophie regarde toujours l'homme, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous voyez, dans la vision de la scolastique, on mettait beaucoup plus l'accent sur philosophie de la nature, physique, et on ne voyait pas tellement le point de vue de l'homme. La découverte des sciences physiques, chimiques, nous oblige de comprendre que ce qui caractérise la philosophie de la nature ou la philosophie du vivant, c'est que l'homme est toujours présent. C'est peut-être cela qui fait qu'on ne voit pas, quand on oublie que l'homme est toujours présent à toute connaissance philosophique. La philosophie regarde l'homme. Je me souviens, premier contact avec le Saint-Père, quand il n'était pas encore pape, c'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Alors j'ai dit connaître l'homme. Alors il m'a regardé, il m'a dit oui, c'est l'homme. Avec son accent particulier quand il parle de l'homme, ça a une profondeur de l'autonomie. C'est vrai. Alors si on ne voit pas ça, Et vous voyez, la scolastique ne le faisait plus voir. Pourquoi ? Parce qu'on commençait par la philosophie spéculative. Alors que si on prend un ordre génétique réel de ma découverte philosophique, on commence philosophie de l'art. L'homme est présent, c'est évident. Philosophie de l'amour d'amitié, l'homme est présent. Philosophie de la communauté, l'homme est présent explicitement. À tel point qu'on dit que c'est l'anthropologie. Et si je poursuis ma recherche philosophique pour savoir ce qu'est la matière, c'est pour connaître le corps. Si je poursuis, parce que la métaphysique ne regarde pas la matière, il faut regarder ce qu'est le corps, ce qu'est la vie, ce qu'est l'être. Mais c'est toujours le corps de l'homme, c'est la matière de l'homme qui m'intéresse en philosophie. Vous voyez, la montagne, c'est très bien, esthétiquement à regarder, mais si je veux l'analyser et m'en servir, je ne ferai, c'est pas la philosophie qui me servira à grand chose. Tandis que la philosophie de la matière, c'est pour connaître le corps, la vie, et l'être. Et quand j'aboutis à la recherche de l'acte, toute la philosophie est reprise dans ce regard de l'être-acte. Nous l'avons vu en voyant les modes particuliers. Et ces modes particuliers me permettent de connaître le pos, le comment de l'homme. Je dis ça, c'est parce que redemander, on ne voit pas très bien comment la métaphysique peut parler de la morale. Alors, c'est intéressant de bien voir le cheminement. Autrement, vous n'arriverez pas à saisir comment la métaphysique se termine dans cette recherche de la personne humaine. On ne peut pas parler vraiment de la personne humaine si ce n'est qu'en métaphysique. Autrement, vous retombez en psychologie. Parce qu'en morale, vous ne parlez pas explicitement, vous parlez explicitement de l'homme, mais la métaphysique va nous faire comprendre que toute la morale nous aide à comprendre en profondeur l'homme qui est finalisé, donc est en acte, par la recherche de la vérité, qui est au-delà de la morale, et par la découverte de l'ami. Et l'ami, d'une certaine manière, est au-delà de la prudence. Or, la morale se structure autour de la prudence. C'est évident qu'un être moral, c'est un être prudent. Et quand vous parlez de dire il n'a pas de maturité, cet homme-là, il manque de maturité. Alors, on dit ça facilement. C'est à la fois psychologique et moral. Les gens ne savent pas très bien où situer ça. Mais il manque de maturité pour ce jugement-là. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les anciens parlaient de la prudence en disant que c'est une petite, c'est la sagesse pratique. Au fond, on devrait dire qu'il n'a pas encore acquis la vertu de prudence. Celui qui a acquis la vertu de prudence, il a une maturité humaine. Parce qu'il sait où il va et il sait comment il y va. Or, le manque de maturité, c'est que on sait bien, on a une finalité, tout le monde croit l'avoir. Et puis, les moyens, je ne sais pas, on est dépaysé. Dès qu'on la place d'avoir de vraies vertus, on a des cadres. On a le noviciat. Le noviciat, c'est parfait. On a compris ce que c'était que le noviciat. Oui, ça tient. Ça tient debout. Ça tient debout. En réalité, c'est comme le carré romain, tu vois. Ça tient debout. Mais dès qu'on est parachuté, on ne voit plus rien du tout. Dès qu'on est seul, on ne voit plus rien du tout. En réalité, on était tout relatif à son voisin. C'est la maturité consiste, au point de vue profond, un homme a acquis sa personnalité. C'est justement de faire que cette finalité de la recherche de la vérité, capacité d'aimer et de porter cette responsabilité de l'ami. Quand on dit à quelqu'un « tu es mon ami », j'en porte la responsabilité. Tu es un autre moi-même. Et je t'aime. Et pour pouvoir porter cette responsabilité, il faut d'abord être capable soi-même d'ordonner sa vie. C'est la sagesse qui ordonne. Et l'ordre pratique, c'est la prudence. Alors, vous voyez comment cette métaphysique de l'être en acte implique de fait ces diverses modalités, la substance, l'autonomie, la vérité, la bonté. Alors, je précise, l'autonomie, donc la découverte de l'âme et de la substance, la vérité et la bonté. La bonté, c'est l'amour d'amitié. Le bon, le bien, le plus parfait que vous expérimentez, c'est l'ami. L'ami, c'est votre bien et c'est votre fin, parce que vous l'avez pour lui-même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Selon les modalités de l'acte, les opérations vitales. Et puis, le mouvement. Et les opérations vitales, pour nous, ou découvrir les opérations vitales, mais c'est au niveau de la prudence. L'opération vitale que vous saisissez le mieux, vous êtes un vivant quand vous êtes prudent, un vivant humain. Si vous n'êtes pas prudent, il vous manque quelque chose au point de vue de votre vie humaine. Puisque par la prudence, vous ne perdez pas de temps. Celui qui perd du temps, dans un dilettantisme complet, se laisse aller à l'imaginaire. Il n'a pas canalisé son imagination. Il n'a pas su la fixer. Alors elle part dans tous les sens. Donc, l'opération vitale n'est pas rattachée à sa personne. Les opérations vitales s'en vont dans tous les sens à cause de l'imagination. L'imagination joue ce rôle qu'elle est capable de désordonner ma personne humaine. Et ça touche ma personne humaine, je n'ai plus la possibilité d'organiser ma vie. Ça m'échappe. Oui, alors, on voit bien comment nous devons avoir ce regard métaphysique sur ce qu'est la prudence. Cette sagesse pratique qui me rappelle tout le temps ce pourquoi je suis fait et qui me montre les moyens par lesquels je retourne vers ma fin. Oui, c'est ce n'est pas du tout le regard moral seulement, c'est beaucoup plus, c'est le regard de l'être présent dans la morale. La morale exprime ma croissance, c'est la croissance de l'être, c'est la croissance de ma personnalité. Je grandis parce que je suis un être moral. Un être qui doit atteindre sa fin. Un être qui ne l'a pas en naissant. En naissant, je ne suis pas une personne humaine. Je suis un être capable de devenir une personne humaine. Je ne suis pas une personne humaine. C'est comme l'embryon, c'est un être humain, mais ce n'est pas encore une personne. La personne, c'est celle qui a atteint par elle-même, par ses efforts, par son intelligence, qui a atteint sa fin et organisé sa vie en fonction de cette fin, qui connaît les capacités vitales qui sont en nous. Nous avons tous ces capacités vitales qu'on découvre progressivement. Et quand on ne les a pas découvertes, elles sont anarchiques. Elles m'échappent. Quand on dit « je vis perpétuellement dans la distraction », qu'est-ce que ça veut dire ? Mes facultés vitales m'échappent. Et j'ai très peu de moments où vraiment ces facultés vitales sont orienté. Oui, c'est comme un cheval sauvage. C'est très beau à voir. C'est très beau à voir un cheval sauvage. J'aime mieux avoir un cheval sauvage qu'un cheval bien, bien civilisé. Mais ce n'est pas bon. Puisque un cheval sauvage, je ne peux pas du tout l'utiliser. Je ne peux pas m'en servir. Il est trop sauvage. Alors, je rends ma vie humaine par la prudence. Tout mon capital de vie, donc les opérations vitales, c'est l'acte au niveau de la croissance. Dans le devenir, je peux saisir l'être en acte dans le devenir quand je l'ai saisi dans son autonomie, dans sa recherche de vérité, dans l'amour d'amitié. Je peux saisir comment tout ce capital de vie qui est en moi et qui est humain au niveau moral. Oui, on a un regard tout à fait différent sur la morale. Parce qu'on voit la morale comme une croissance de vie qu'on doit éduquer soi-même. La prudence nous permet d'être notre auto-éducateur. C'est ça un être prudent. Alors de temps en temps, il demande conseil quand il est dans des circonstances particulières et nouvelles qu'il ne connaît pas encore. Quand il y a des sauts périlleux, alors il demande conseil. Ça fait partie de la prudence. Parce qu'on voit, la prudence nous permet de voir les limites de notre capital de vie. Oui, mais c'est notre capital de vie. Au sens très très fort. Un homme prudent, c'est celui qui exploite parfaitement tout son capital de vie. Et autant que possible, rien ne lui échappe. Parce qu'il a non pas canalisé son imagination, mais il la capte et il l'oriente. Il la supprime pas, mais il la capte et l'oriente. C'est ça l'être prudent. Il le fait pour l'imagination, il le fait pour les passions, pour toute l'affectivité qui est en nous. Oui, briser nos passions, briser notre imagination, c'est peut-être stoïcien, mais ce n'est pas humain. Et cela ne fait pas partie de la personne humaine. On n'a pas le droit de briser notre bras droit. Parce qu'il est un tout petit peu plus long que notre bras gauche. Donc il est en désharmonie. Je n'ai pas le droit, pour l'harmonie, de le couper. Celui qui ferait ça, dit, mais quelle idée tu as. Tu vois pas ce que c'est. Après, il faut le faire repousser. Puis ça ne repousse pas. On dit, mais il est complètement stupide. Il est un peu fou. Eh bien, c'est la même chose quand vous voulez arrêter votre affectivité. Arrêtez. C'est même plus grave que le bras. L'affectivité, c'est quelque chose de plus humain et de plus vital que le corps et que les membres du corps. C'est la même chose pour l'imagination. Vous avez une imagination débridée, tant mieux. Vous avez des possibilités étonnantes. Vous allez dire, oh, c'est triste, je vis dans mon imagination. Mon horizon, c'est l'imagination, ça ne va plus du tout. Mais tant mieux, vous avez l'imagination, c'est un capital de vie. Essayez de voir comment la prudence, c'est la prudence, un problème de prudence, c'est la prudence qui, de l'intérieur, parce que c'est l'intelligence. L'intelligence peut travailler de l'intérieur. Mais c'est pour ça que le dressage qui se fait de l'extérieur, c'est pas très intelligent. Dresser quelqu'un, c'est pas très intelligent. Le stoïcisme manque d'intelligence. Ça manque d'intelligence. On ne croit pas à la puissance de l'intelligence. On ne croit pas à la vitalité de l'intelligence. C'est ce qui est en nous de plus vital et de plus noble. Alors c'est vraiment notre intelligence pratique. Et ça, c'est la vision métaphysique de l'intelligence. Il y a une vision métaphysique de la prudence. C'est une petite sagesse. Pour moi et pour les autres. Puisque je dois donner des conseils. Et les conseils relèvent de la prudence. Alors si vous n'êtes pas prudent et que vous donnez des conseils, qu'est-ce que vous faites? C'est un borgne qui conduit un aveugle et qui le mène dans le précipice. C'est cela qu'on doit essayer de saisir au plan métaphysique, la vitalité, l'intelligence pratique. C'est grand la prudence. Or, quand vous l'étudiez uniquement au point de vue moral, vous risquez de ne pas voir suffisamment. Vous voyez, c'est qu'on a trop fait une morale pour une morale, alors on se dégoûte de la morale. Si on avait eu une vision métaphysique de la morale, on n'aurait plus besoin de choses qui sont des ersatz de la prudence. La psychologie constamment est une ersatz de la prudence. Si vous aviez une prudence suffisamment puissante et suffisamment lucide, vous feriez ça tout de suite. Vous auriez les obstacles, vous avez les obstacles, il y a de mauvais plis en vous. On a tous été mal éduqués, tous on a été mal éduqués. On a été très bien éduqué puisqu'on est là. On a été très mal éduqué. Il y a du mauvais et du mal. Et ce qui est mauvais se sent beaucoup plus. Parce que c'est négatif. Alors dans la croissance, ça se voit plus. Vous voyez, petite erreur de la jeunesse. Quand on a 25 ans, ça devient une grosse erreur. Et quand on a 70, encore plus grosse. Alors ça se voit énorme, c'est la loupe. Ça grandit. Il faut essayer d'avoir cette vision métaphysique de la prudence, du comment de la personne humaine, du comment de notre être humain, le comment de notre intelligence pratique ordonnée au bien qu'il faut acquérir. Oui. Si ce bien humain m'était donné tout de suite, je n'aurais pas besoin de la prudence. Mais ce bien humain ne m'est pas donné tout de suite. Il y a l'amour, l'union affective et l'union effective. Et je vous ai déjà dit plus d'une fois que c'est l'abîme qui existe entre l'union affective et l'union effective qui me montre la place de la prudence. Il faut combler cet abîme. Et pour combler cet abîme, il y a ce regard prudentiel sur ma capacité d'aimer une personne. C'est fou d'aimer une personne et d'être responsable. Et quelquefois, c'est une personne beaucoup plus intelligente que moi, beaucoup plus avancée que moi, Et j'en suis, parce que je l'aime, j'en suis responsable. Et pour répondre à son choix et ne pas la décevoir, parce que je peux la décevoir, quand l'imaginaire à tout prix, elle m'a peut-être vu dans un feu d'artifice, c'était merveilleux, étonnant, mais il n'y avait rien derrière. Avec le nuage imaginatif, la bulle de savon. Une bulle de savon, c'est très beau, hein, quand il y a du soleil, c'est merveilleux. Et quand vous mettez le doigt dessus, il n'y a plus rien. Une bulle de savon, est-ce que c'est un être intentionnel, c'est un être artificiel, hein? Une bulle de savon. Mais de temps en temps, la personne humaine se présente comme une bulle de savon. C'est l'imagination qui est au prix. Vous mettez le doigt dessus, plus rien. Vous ne pouvez pas compter dessus. Là, ça déçoit. Tandis que si vous avez fait le lien entre l'union affective, où l'imaginaire joue beaucoup. Je crois que s'il n'y avait pas d'imaginaire, on aimerait très peu ce premier amour. C'est beau l'imagination. Ça nous permet d'aimer, de faire des bonds extraordinaires. Ça nous permet d'être séduit. Mais c'est quand même très beau d'être séduit. Quelqu'un qui n'a jamais été séduit de sa vie, c'est un triste seigneur. Il n'a jamais été séduit. C'est un grain de blé qui s'est asséché. C'est que la séduction permet quelque chose. Mais quand il n'y a que la séduction, c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors, il faut comprendre que la prudence, si elle prend tout, elle risque de tuer l'imaginaire. Parce que la prudence veut la clarté. Descartes, c'est le petit bourgeois prudent. Arrive la clarté. Alors, pour avoir la clarté, le corps humain, l'affectivité, tout ça, c'est pas grand-chose. C'est la clarté. Et la clarté la plus parfaite, elle est dans la logique. Mais c'est assez sec, aucune fécondité. Il n'y a pas de fécondité dans la logique. Aucune fécondité. Alors quand la prudence s'appuie sur la logique, ça va pas loin. Il faut cette découverte de la prudence et la découverte de la justice. Il y a un regard métaphysique sur la justice, le droit de l'autre. Et pour pouvoir aimer, il faut respecter le droit de l'autre. La prudence m'apprend à respecter le droit de l'autre. Et constamment, dans la vie commune, les difficultés viennent qu'il n'y a pas assez de sens du droit de l'autre. Alors évidemment, on se marche sur les pieds. Tandis que, s'il y a les droits de l'autre, on dit « on va à droite, toi tu vas à gauche ». Comme ça, on peut se croiser en se souriant. Tandis que si vous allez sur la même voie, vous trouvez subitement l'un à cause de l'autre. Alors, vous, à la place de sourire, vous vous engueulez. Qu'est-ce que tu fais pour être sur ma plate-bande? Et l'autre dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour être sur ma plate-bande? Tu n'as pas vu que j'étais là? Alors, droite et gauche, c'est conventionnel, ça signifie rien du tout. Ah, pas du tout, attention. Si, par là, symboliquement, ça représente le droit de celui qui monte, le droit de celui qui descend. C'est ça que ça représente, la droite et la gauche. C'est du conventionnel symbolique. Rouge, vert, hein. C'est du conventionnel symbolique, mais qui est très important pour respecter le droit de l'autre. C'est le respect du droit de l'autre. oublie les limites de vitesse, respectez le droit de l'autre. Si vous étiez seul sur la route, mais faites tout ce que vous voulez, et vous n'êtes pas seul. Alors vous devez respecter. Il faut toujours y avoir quelqu'un qui débouche et qui a une distraction. Mais prudentiellement, c'est pas commode de porter les distractions des autres. Et pourtant, la justice fait comprendre qu'il y a un droit de l'autre. Alors, il y a la justice, il y a la force canalisée. Canaliser toutes les grandes attaques et rester debout, fort, ne pas fléchir, avoir sa dignité jusqu'au bout. Ça, c'est l'irascible, vu dans la perspective de l'être. Et c'est très beau parce que là, toute cette vision prudentielle, vue du côté du je suis, me donne une couleur particulière à ma personne humaine. Et c'est vrai, notre individuation, elle se voit à travers nos passions. Et l'équilibre qu'il y a entre le concupiscible et l'irascible. Et la manière dont la prudence va de fait éduquer cette irascible et ce concupiscible. Et chacun d'entre nous, nous l'éduquons différemment. C'est pour ça que c'est une auto-éducation. La personne humaine a ce droit de s'auto-éduquer. Et vous pouvez dire à ce moment-là, à vos vieux éducateurs, très très bien, maintenant je sais vous conduire tout seul. S'il y a des difficultés imprévues, j'irai te consulter. Alors on va consulter les sages, qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais autrement, on s'éduque soi-même. Par ce point de vue prudentiel, vous voyez, c'est comme ça que vous devez comprendre la manière dont la morale, c'est-à-dire la croissance de notre vie, comme ça qu'on devrait appeler le moral aujourd'hui. La croissance de notre vie. La croissance de notre capital vital. S'il n'y a plus de morale, vous êtes comme l'enfant prodigue qui perd tout son capital par des bêtises. Et après, il revient à la maison, il n'y a plus rien. Le drogué, c'est ça. Il perd son capital pour l'imaginaire. Et c'est la séduction de l'imaginaire. Alors, il n'a plus. Mais cette vision de l'être, dans le point de vue éthique, est indispensable au point de vue philosophique. On a trop vu uniquement la morale pour elle-même. Et on n'a pas vu assez une morale de la personne. Une morale qui permet à la personne d'atteindre sa fin. Une morale qui permet de faire que l'union affective ne se perde pas par l'imagination, par la folle imagination, par la séduction, mais que l'union affective aboutisse à cette union effective, très simple, de chaque jour. C'est évident, l'union effective est beaucoup moins séduisante que l'union affective. C'est sûr, parce qu'on est devant la réalité. Et devant la réalité, mais oui, une personne humaine, si riche qu'elle soit, mais elle est limitée. Oui, c'est sûr. Et alors, certaines personnes, dès qu'elles découvrent les limites de leur ami, disent « Ah, oh, tu n'es que ça !» J'avais pas vu ça. On avait cru que c'était quelque chose d'extraordinaire, merveilleux, mais pas du tout. Ses limites. Si on l'aime, ah, c'est beaucoup plus beau. En voyant ses limites, il y a une possibilité de s'aimer encore plus. Parce qu'il y a une coopération. Et donc, l'union effective devient sérieuse. jusque-là, c'était uniquement la séduction. On s'apercevra, tiens, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est ça, le vieux dicton. C'est cette découverte de la faiblesse de l'autre et qui nous permet, à ce moment-là, d'être plus proches. Quand vous avez vu que la séduction, oui, les gens qui se marient quelquefois quand ils sont un peu trop jeunes, n'ont vu que la séduction. Ils se sont mariés au nom de la séduction. Ça, c'est terrible. Parce qu'il y a le lendemain. Ils savent plus. Tandis que si on se marie au nom de l'amour, d'amitié, on sait qu'on peut découvrir des faiblesses qui nous permettront de coopérer plus. Et c'est ça qui est très étonnant. Mais l'orgueilleux, et c'est là on voit comment l'orgueil est quelque chose de terrible et lié à l'imaginaire, l'orgueilleux n'accepte pas de voir ses limites, et encore moins de les montrer à l'ami. Le signe de l'humilité, c'est justement d'être vrai à ses propres yeux et vrai aux yeux de son ami. Non pas de les montrer à tout le monde. Oui, je me souviens dans un lieu que je ne nomme pas, mais qui était une sorte de séminaire assez particulier. Au retour des vacances, il y avait des petits soviets qui se formaient et chacun disait toutes les tentations qu'il avait eues pendant les vacances. Pas à son père spirituel, mais aux autres. Alors ça faisait une gangrène. On met en commun ses faiblesses. Mettre en commun ses faiblesses, ce n'est pas du tout astucieux. Parce que c'est s'enfoncer davantage dans sa fragilité. Et ce n'est pas, soi-disant, une vérité, c'est une sincérité. Parce que ce n'est pas vouloir sortir de ses faiblesses. Dire ses faiblesses à l'ami, c'est pour en sortir. C'est pour que l'ami nous donne conseil et nous aide à en sortir. Après, cette vision sur le point de vue moral, et je voulais que vous la voyiez bien, parce que c'est très très important, cette auto-éducation de soi-même. Et c'est vrai pour tout, vous voyez, parce que je dirais que au point de vue chrétien, on trouverait, ici nous sommes au point de vue moral humaine, hein, au point de vue chrétien, on trouverait des choses analogues. Vous voyez, on trouverait celui qui conçoit la paternité spirituelle pour toujours rester docile à son père spirituel, être un petit toutou qui suit. Ou celui au contraire qui a compris l'esprit et qui veut être un saint. Un saint est relié directement à Dieu. Alors il aime son père spirituel, mais l'amitié divine qui l'aide pour demander conseil, pour se réconforter en quelque sorte. Mais il y a cette autonomie foncière que Dieu attend de nous. Parce que en créant notre âme, il n'a pas créé des petits moutons. Même si Jésus parle de brebis, il faut comprendre qu'être les brebis du Christ, c'est pas être des petits moutons. C'est être des êtres capables de coopérer dans l'amour d'amitié, dans la charité. Cinquième dimension de la personne, le point de vue de l'activité artistique, le point de vue du travail. Je crois qu'on peut dire que la cinquième dimension, c'est le travail. Et ce travail aura toute sa noblesse dans le travail intellectuel et dans le travail artistique. tout de suite le travail intellectuel et le travail artistique. Parce qu'il y a un travail intellectuel. Et il faut découvrir la dimension du travail intellectuel, la recherche. Et il y a un travail artistique. Et il faut découvrir la dimension de ce travail artistique. Certaines personnes, étant donné l'intensité de leur imaginaire, ne pourront éduquer humainement leur imaginaire que par l'art. L'art est un moyen étonnant pour transformer l'imaginaire romantique. Vous voyez, l'imaginaire romantique, c'est-à-dire toutes les poussées imaginaires dans tous les sens, en un imaginaire humain. Et ça, c'est très important, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que je crois que ce qui caractérise le climat dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un climat qui exalte l'imaginaire. L'homme moderne est un homme d'imagination. Et tous les climats dans lesquels nous vivons, télévision, cinéma, et beaucoup l'art. Mais le véritable art, c'est vrai, implique tout un domaine imaginatif, mais une imagination qui devient humaine. C'est la grandeur de l'art. C'est que l'homme a besoin, a toujours un tout petit peu, d'une réminiscence du paradis terrestre et une attente de la gloire. Il a besoin de ça. Pas seulement le chrétien, tout homme. Il y a une dimension de la personne humaine qui est très importante à saisir. Aujourd'hui, parce que c'est très vrai que la théologie classique ne l'a pas énormément développée et que la philosophie scolastique décadente n'en a pas parlé du tout. Alors que je crois qu'aujourd'hui c'est nécessaire de comprendre que la personne humaine ne peut se développer parfaitement que par un véritable travail. Et le travail artistique aide à être un véritable travail. Le travail intellectuel, pour être un vrai travail, est beaucoup plus rare et plus difficile au point de vue éducatif. Parce qu'on le voit moins, on le sent moins. Alors il faut quelquefois passer par l'art pour découvrir le travail de l'intelligence, le travail spirituel. Alors essayons de découvrir cela. Vous voyez, on pourrait dire, pour que vous saisissiez mieux cela, on pourrait dire que si, au point de vue du développement de la personne, tout l'aspect moral, auto-éducation, prudentielle, c'est la croissance de notre personne humaine. Et si ce point de vue moral n'existe plus, il n'y a plus de vraie croissance de la personne humaine. On reste des petits nains au point de vue personne humaine. On reste des quelque chose qui n'a pas de force, sur lequel on ne peut pas compter. Il n'y a qu'une séduction. Et la séduction, vous comprenez bien, la grande séduction, elle est artistique. alors c'est là, on voit la place de l'art dans le point de vue auto-éducation, dans le point de vue de l'acquisition de notre personnalité humaine. C'est que nous avons tous besoin, au point de vue humain, je ne parle pas au point de vue religieux, nous sommes au niveau de la personne humaine. Après, nous verrons la personne religieuse. Et c'est peut-être là le facteur très différent entre le point de vue religieux et le point de vue humain. Mais au point de vue humain, nous avons tous besoin d'un contrepoids de la morale par le point de vue du développement de l'art. Les deux frères jumeaux qui se développent en nous, ou les deux sœurs jumelles, ça dépend comment vous les appelez, c'est l'adjéré et le fadjéré. Et ça va toujours ensemble. Et quand vous ne développez que l'adjéré en supprimant complètement le fadjéré, vous risquez de faire un développement qui ne soit pas harmonieux. Vous voyez, ce sera la 16 qui l'emportera. Alors, tout sera ordonné au développement moral. Et il n'y aura pas de détente. Le fadjéré donne la détente. La vraie détente. Pas une détente anarchique. Permet à l'être humain de se renouveler constamment. Vous voyez, le renouvellement ne vient pas directement de la prudence. Le renouvellement vient d'une prudence qui aime de faire appel au fatueré, à l'activité artistique. Et source de renouveau constant. L'art est source de renouveau constant par l'inspiration. L'inspiration est une dimension humaine de ma personne humaine. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui n'a aucune inspiration, ça risque d'être très ennuyeux. Il n'a aucune originalité. C'est empoisonnant. C'est vrai. La prudence, c'est pas très original. Un homme prudent, un homme de bons conseils, c'est très important dans certaines circonstances, situations limites, on a absolument besoin. Mais vivre toujours avec ça. On a besoin de temps en temps d'ouvrir une fenêtre pour qu'il y ait une autre vision, une autre vue. Pourquoi a-t-on besoin, quand on travaille intellectuellement, d'avoir quand même un beau paysage en face de nous de temps en temps? Pourquoi il est bon qu'une carmélite puisse regarder les étoiles du ciel? C'est pas moral de regarder les étoiles du ciel. Ça n'a rien à voir avec ma prudence. C'est pas l'étoile qui m'apprendra la prudence. L'étoile du matin. Elle est devenue symbolique. Comme pour la petite Thérèse, elle a voulu avoir symboliquement son nom dans le ciel. Vous voyez là, la petite Thérèse qui est un être très moral. Et il y avait quand même dans le ciel un signe. Ça prouve qu'elle regardait le ciel. Et ça lui donnait une ouverture. On a tous besoin, dans la construction de notre personne humaine, de comprendre la place du travail. Alors, il y a le travail qu'on fait par obéissance. je travaille parce qu'on m'a dit de le faire. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je ne sais pas. Je travaille parce qu'on m'a demandé de le faire. On m'a dit de faire de la métaphysique. Je fais de la métaphysique. Mais qu'est-ce que ça vous dit au panier? Je ne sais pas. Alors ça, c'est très bien, les 6 premiers mois. Alors, il se passe vite, les 6 premiers mois. Après les 6 premiers mois, il faut quand même comprendre la signification du travail qu'on vous demande. Vous avez le droit de pâtir pendant 6 mois, mais pas plus. Parce qu'après, on dit des toupies qui tournent, sans savoir pourquoi elles tournent. Et quand elles tournent trop vite, on dit attention, attention, parce que ouais, ça va aller. Il y a une sorte d'hygiène de la morale. Et l'hygiène de la morale, c'est cette ouverture du travail intelligent. Humain. Un travail fait par pure obéissance est ascétique et n'est pas intelligent. Je regrette, mais c'est comme ça. Il est ascétique. Je travaille parce qu'on m'a demandé de travailler. Oui. Et dans certains cas, c'est très juste. Jésus meurt sur la croix par obéissance. Et parce que c'est mourir sur la croix. Donc c'est très ascétique. Et c'est le grand travail. Alors là, c'est la sainteté. Ce n'est plus la personne humaine telle qu'on la voit. Au niveau amour d'amitié, c'est une ouverture vers le ciel. Vous voyez que la croix ne signifierait rien s'il n'y avait pas la résurrection. Elle serait vaine. La croix n'a de sens que parce qu'elle conduit à la résurrection. Il est bon pour vous que je m'en aille. Et ça montre bien que le travail, vous voyez, fait pour lui-même, devient très vite vain. Un travail fait par pure obéissance. Il faut découvrir dans le travail comment ma personne humaine se développe. Je crois que c'est très important, mais il ne faut pas que le travail, donc la partie, le travail conduit au travail numéro un, qui est un travail artisanal, qui est un travail artistique. Le travail, c'est une dimension humaine qui transforme le milieu dans lequel je suis. C'est le propre du travail. C'est transformer le milieu dans lequel je suis. Je transforme mon petit potager. Je transforme ma petite maison, ma petite boutique, ma petite cabane. Je transforme mes meubles. Je transforme le lieu où je mange. Je transforme, et ainsi de suite. Tout est transformé. Tout est. Si je suis purement un être purement moral, ah, je perds du temps à faire ça. Donc je ne le fais pas. Alors au bout d'un certain temps, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un être qui vit dans un aspect ascétique parfait. Faites la cuisine une fois par semaine, pour toute la semaine. Celui-là, alors, pour le premier jour, c'est très bien. Le second jour, c'est un peu moins bien. Le troisième jour, c'est encore moins bien. On voit très bien la 16. Alors, au point de vue chrétien, ça peut se comprendre pour certains êtres assez puissants. C'est possible. Mais vous voyez, c'est quand la charité divine nous brûle. Alors, à ce moment-là, on dépasse le point de vue moral et on est au point de vue de l'amour. L'amour suffit à tout. Pas la morale, pas la prudence. Il y a le complément de la prudence et de l'art. Parce que s'il n'y a pas cette complémentarité, on crève. Un être, un saint qui vit de l'amour. On peut très bien ne pas le comprendre, mais c'est quand même quelque chose. Ça a une grandeur devant laquelle on s'incline et dit, c'est trop grand pour moi. On passe son chemin, on admire. Tandis qu'un être moral, qui n'est que moral, c'est pas très séduisant. Et c'est difficile. C'est trop sérieux. Et ça n'a pas assez de dimension, assez de fulgurant. Ça reste très très limité. On voit très bien ça. Vous voyez, une vie religieuse qui ne serait qu'une vie religieuse, le genre religieux, d'un point de vue humain, je parle ici, hein, risquerait de mettre trop l'accent sur la 16. C'est sûr. Alors, une vie religieuse contemplative dépasse ce point de vue-là par le point de vue contemplation. Je regarde le point de vue de la personne humaine avant le point de vue religieux. Et je vois qu'il est indispensable, comprenez bien. Peut-être que l'amour divin me permettra de dépasser cet indispensable. Mais pour l'homme, il est indispensable. Qu'il y ait cette possibilité d'ouvrir une fenêtre par un travail artisanal, par un travail qui permet à l'homme de transformer petit à petit le milieu dans lequel il est, par un travail humain. Pas nécessairement génial, mais humain. Il a ce temps de travail. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Comment cette dimension de l'homme capable de modifier, de transformer le milieu dans lequel il est, et que cette transformation est nécessaire pour lui, pour son être humain, pour le développement de son être humain, pour permettre à son être humain, dans sa croissance, d'avoir un peu de gloire. Parce que c'est peut-être cela qui me permet de comprendre comment le travail artisanal, artistique, permet à l'homme dans la recherche de sa personne, dans sa croissance, de respirer, de s'arrêter de respirer. Il y a quelque chose de très particulier dans l'activité du travail qu'il faut découvrir. Au début, on travaille par obéissance. On a tous travaillé par obéissance. Et à un moment donné, on comprend que c'est nécessaire au développement de notre être humain, de notre personne. Et c'est ce nécessaire que je désire saisir pour comprendre que le travail fait partie essentielle de la personne humaine.